Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 10 avril 2021. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine, ça va bien?
Absolument. Alors, on va commencer par parler de véhicules électriques. En fait, les nouvelles portent sur les véhicules électriques cette semaine. On va commencer par une cocasse, disons, parce qu'il y a une taxe qui a été instaurée en Saskatchewan pour les conducteurs de véhicules électriques. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux en Saskatchewan.
Oui, et on sent l'ironie dans ton propos. Effectivement, Antoine, c'est une nouvelle qui va un peu à l'encontre de ce que le Canada, de manière générale, veut faire avec l'automobile électrique, c'est-à-dire la favoriser pour qu'elle soit présente en plus grand nombre. Il y a des subventions qui sont fédérales, donc pour l'ensemble du pays. Et certaines provinces, comme le Québec, bien sûr, et la Colombie-Britannique, font un effort aussi en proposant des subventions de leur côté, et tout ça s'additionne, ce qui peut faire que, dans certains cas, ça devient des achats intéressants. Mais là, spécifiquement en Saskatchewan, on a décidé d'instaurer une taxe annuelle de 150 $. Donc, oui, c'est négligeable, mais c'est ça quand même. Une taxe de 150 $ aux propriétaires de véhicules électriques.
Pour quelle raison?
Ben, tout simplement parce que en ne se procurant pas de carburant, que ce soit de l'essence ou du diesel, ils ne participent pas, ils ne paient pas la taxe
Sur
le carburant. Donc, et cette taxe-là sert à entretenir les routes notamment. Donc, les propriétaires de véhicules électriques ne font pas cet effort-là collectif de participer à l'entretien des routes. Donc, on va récupérer cet argent-là de cette manière-là. Et là, je sens la question sur le bout de tes lèvres. Combien y a-t-il de véhicules électriques en Saskatchewan, Germain?
Combien y a-t-il de véhicules électriques en Saskatchewan, Germain?
400.
400. Fait que si on fait un calcul rapide...
Je les ai comptés ce matin, il y en a 400.
Bon, fait que s'il y a 400 véhicules électriques en Saskatchewan, ça veut dire grosso modo 60 000 $ de revenus
Exactement.
De taxes par année.
Exactement, voilà.
Alors, c'est quand même... 60 000 $, c'est à peu près le prix d'une voiture électrique.
Oui, c'est un peu... je sais pas
parce
si
qu'il n'y a pas besoin de vous dire que là-bas, il n'y a pas nécessairement de subvention.
Non. Et je sais pas si, comme c'est assez nouveau, je sais pas si d'autres provinces, par exemple l'Alberta, où l'automobile électrique n'est peut-être pas le moyen de transport le plus à la mode. Est-ce qu'on pourrait opter pour une mesure similaire? J'en ai aucune idée, mais chose certaine, c'est très, très, très différent de ce qui se passe ici au Québec.
Et ce qui est ironique, c'est que, évidemment, le parc automobile en Saskatchewan est à peu près 8 fois moins grand que celui du Québec, en raison de la population, vous aurez bien compris. Mais les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de la Saskatchewan des automobiles par rapport à celles du Québec sont à peu près identiques. C'est vous dire à quel point...
Les véhicules présents probablement roulent davantage et polluent davantage.
Bien, tout le monde achète des pick-up. Voilà. Bon, on se casse pas la tête, là. Puis tout le monde achète des F-150. Puis c'est un 8-cylindres, puis on se casse pas la tête. C'est littéralement ça. Donc, faut pas nécessairement être surpris de ça, mais c'est la preuve que c'est deux planètes complètement différentes et c'est deux façons de penser complètement différentes.
Et tout ça pour aller chercher 60 000 $
60 000 $ monsieur. Ça fait que ça, c'est un F-150 de milieu de gamme.
Oui, et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va entretenir comme route avec cet énorme budget-là qu'on va avoir débloqué. Là. Est-ce qu'on
idée.
Va refaire un trottoir dans un cul-de-sac? Je ne sais pas.
On va couper le trottoir à deux endroits pour une station-service.
C'est à peu près tout.
Dans un autre ordre d'idée, Volkswagen qui a dévoilé officiellement le ID.4, véhicule très attendu, un véhicule dont le prix est intéressant, dont la stratégie est intéressante, ça s'en vient chez nous d'ici la fin de l'été.
Oui, effectivement, on attendait ça depuis plusieurs mois. Et là, tu vas me dire, il va falloir continuer d'attendre avant qu'il arrive. Mais au moins, on a eu des informations concrètes. Donc, dans sa version de base, le Volkswagen ID 4 ou ID 4, là, on ne sait pas comment le prononcer ici en français. Donc, appelons-le l'ID 4. Ben, va être offert à partir de 44 995 $, ce qui fait quoi? Qu'il va être éligible, oui, aux pleins crédits gouvernementaux de 13 000 $. C'est très, très, très intéressant.
8 000 du provincial, 5 000 du fédéral.
Oui, effectivement. Donc ça, c'est pour la version à propulsion. Et on a eu la chance de réfléchir à voix haute sur le sujet dans le live qu'on a fait ensemble cette semaine dans le Jeep Grand Wagoneer en remplacement de la grosse brune traditionnelle. Ça fait un bail qu'on n'a pas eu de Volkswagen à roue motrice arrière. Mais bon,
ouais, exactement.
C'est assez curieux. Et comme les concurrents directs de l'ID4 proposent les roues motrices arrière, ben, enfin, proposaient dans le cas de la Tesla Model Y et proposent dans le cas de la Mustang Mach-E, ben, c'est pas non plus très, très étonnant. Bon, version intéressante, cette fois, à quatre roues motrices, on passe à 49 995 $. Donc, un écart qui s'agrandit parce que on n'a pas droit, dans ce cas-ci, à la pleine subvention.
On a droit à la subvention provinciale, mais pas à la subvention fédérale, parce que la limite est à 45 000 pour ça. Donc, autrement dit, l'écart de 5 000 $ sur papier devient un écart de 10 000 $ en réalité. Mais il n'en demeure pas moins que j'ai l'impression qu'une majorité de gens vont opter pour la version à rouage intégral.
Absolument. Du moins au Québec.
Ben, parce qu'on annonce quand même une puissance intéressante et l'autonomie se situerait à autour de 400 chevaux. 400 kilomètres,
exactement.
Donc, c'est quand même loin d'être vilain. J'ai vraiment hâte de voir la stratégie autour de ce véhicule-là. Il y a énormément de demandes. Et on apprenait aussi que ce ne sont pas tous les concessionnaires qui vont les vendre.
Ben voilà, exactement. Donc, ce sont seulement les concessionnaires qui ont adopté la nouvelle image de marque qu'on appelle White Frame. Donc, vous les avez peut-être vus en bordure de grandes artères commerciales. Donc, c'est des nouveaux concessionnaires Volkswagen qui se sont renouvelés et souvent sur plus d'un étage et qui sont complètement blancs. Donc c'est ces concessionnaires-là qui pourront vendre l'ID4 et je pense qu'il y a certains intéressés qui ont été très déçus cette semaine après avoir laissé un dépôt chez un concessionnaire Volkswagen à l'automne dernier. Et là, ben, on apprenait cette semaine que le concessionnaire où on avait laissé un dépôt de 500 $, ben, ne vendra pas d'ID4. Donc, on se retrouve finalement 75e sur la liste alors qu'on était le 4e ou le 5e. Donc, ce qui fait que...
De toute façon, on va falloir réussir.
Si on pensait avoir son véhicule à la fin de l'été, ben, on va peut-être l'avoir plus au printemps prochain, par exemple. Donc, ça va occasionner des délais, ce qui est un peu malheureux.
Mais est-ce qu'on va de toute façon être capable de suffire à la demande?
Ben voilà.
Parce qu'il semble qu'il y a énormément de demandes, avec raison, pour ce véhicule-là. Parce que au prix où on en demande, puis avec le sérieux de la construction dont on peut s'attendre, ben, je pense que ça va être un véhicule à succès qui va arriver un peu avant le Nissan Ariya, qui sera un autre concurrent très sérieux dans ce segment-là. Bref.
Pour lequel on n'a pas beaucoup de détails encore.
Si ce n'est que son nom est à coucher dehors.
Oui, c'est un peu particulier. Dernier truc en terminant, Antoine, sur l'ID4. Donc, il est assemblé en Allemagne, mais en ce moment même, on est en train de procéder à des rénovations et agrandissements à l'usine de Chattanooga, au Tennessee. Pour assembler le véhicule là-bas, donc, et pouvoir le diffuser à plus grand volume dès 2022 en Amérique du Nord.
Bon, un autre véhicule électrique qui a fait jaser cette semaine et qui va attirer peut-être quelques érudits de la voiture électrique, mais surtout des gens qui veulent avoir un véhicule exceptionnellement performant et polyvalent. Moi, je pense qu'on va réussir à rejoindre deux types d'acheteurs avec ça. C'est le GMC Hummer, mais dans sa version SUV.
Oui, effectivement. Donc, on avait eu droit il y a quelques semaines, quelques mois, à la version camionnette, donc à la version pick-up de ce véhicule-là. Et c'est ce qu'on nous avait annoncé, une version VUS à l'essai. suivre. Ça a été présenté. On n'a pas exactement les mêmes performances. On n'a pas exactement non plus la même autonomie. Tout ça est un petit peu réduit, justement parce qu'on a moins de place. On n'aurait pas pu avoir un plancher aussi plat. Donc, c'est quelques modifications qui ont été apportées de ce côté-là. Il n'est pas beaucoup moins cher, hein, malgré tout. Donc, on est à près de 90 000 $ pour la version d'entrée de gamme. Si on
autrement
peut
dit,
comme
125 000.
Ça. Puis, exactement, c'est 125 000 au sommet de la gamme.
Ouais.
Donc, ça va être un produit intéressant à surveiller.
Mais ça va être une alternative à des acheteurs de Chevrolet Tahoe. C'est carrément ça.
Et le Hummer, dans sa version pick-up, bon, oui, on reprenait certains éléments stylistiques timidement là, des Hummer traditionnel, mais là, en version VUS, ça ressemble vraiment à un Hummer. C'est assez intéressant.
Non, bien, côté look, ça va vendre, mais moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'acheteurs de ces véhicules-là qui vont s'en procurer au Texas où les véhicules électriques sont pas populaires.
Ben non, parce qu'au Texas, au Texas, on ne veut pas rouler en Kia Soul électrique. Là. Ben, premièrement, la dernière, on ne l'a pas, mais on ne veut pas rouler en Kona électrique, là.
En fait, on veut pas rouler en électrique là-bas parce que l'électricité coûte cher, parce que l'essence coûte rien, parce que c'est pas dans les mœurs.
Mais là, un Hummer peut être intéressant.
Un Hummer, c'est ça, pour son côté ostentatoire.
Ouais.
Ben là, ça risque de rejoindre une clientèle
et
plus
large.
Et c'est
très ostentatoire.
Ah, très ostentatoire, c'est clair. Mais en plus, ça va être très payant parce qu'à 100 000 $ la copie, on s'entend que là, ça commence à être intéressant pour GM qui veut juste vendre ça, dans le fond.
Et
on veut vendre des véhicules à 100 000 $. Ouais, c'est ça qu'on veut faire.
Et là, on a eu droit au pick-up. Là, c'est le VUS qu'on présente cette semaine. On est toujours du côté du GMC. Il va y avoir un équivalent chez Chevrolet, jamais je croirais, là.
On annonçait aussi que les Silverado Sierra seront offerts en version 100% électrique, utilisant le même châssis de toute façon.
J'ai l'impression que ça fait 25 fois qu'on nous l'annonce, là, mais c'est correct.
Sauf que là, on a la technologie.
Oui.
Donc, ça va être pas mal intéressant.
Continuons d'attendre.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Deux essais qu'on a fait simultanément, toi et moi, cette semaine. Deux voitures de même famille, de même gène, de même couleur même.
Deux berlines coréennes rouge vin. Donc, dans ton cas, l'Elantra dans sa version la plus sportive, la version N-Line.
Exactement. Alors, l'Elantra qui s'est complètement renouvelée cette année. Look assez particulier, merci.
J'allais dire, ça se voit là qu'elle a été renouvelée.
Ça n'a rien à voir avec l'ancienne génération. C'est très, très, très polarisant comme design. Personnellement, je n'aime pas vraiment. Il y en a d'autres qui vont la trouver magnifique. Alors, c'est vraiment une question de goût. On a quand même très bien travaillé au niveau de l'habitacle, de l'aménagement, de l'espace. L'ouverture du coffre, ça, c'est pas génial. On l'a échappé, celle-là. Et il y a quelques matériaux en dedans qui sont d'entrée de gamme. Là encore, on peut être un peu déçu de ça, mais sinon, franchement, une voiture qui risque de déranger énormément dans le marché de la voiture compacte, qui est de moins en moins compacte, il faut se le dire, parce que la différence de taille entre l'Elantra et la Sonata, c'est pas si grand que ça. Ce que je mettais à l'essai, on sait que l'Elantra est disponible dans plusieurs versions avec son moteur 147 chevaux. Il y aura une version hybride qui va arriver prochainement. On annonce une consommation combinée à 4,4 litres au 100.
C'est assez prometteur.
Donc, dans la mire de la Prius. Et là, la version N-Line, ben, c'est avec le moteur 1.6 turbo qui a été retravaillé sur papier, mais qui fait toujours 201 chevaux de puissance. C'est jumelé malheureusement uniquement avec la boîte séquentielle double embrayage à 7 rapports. On élimine la boîte manuelle. Première erreur pour moi. Et tu vois, j'ai pris le volant de cette voiture-là. Il y a un couple intéressant. Mais tu ne te sens, outre le fait que la suspension est plus ferme qu'avec une Elantra ordinaire, tu ne te sens pas dans une réelle sportive. Tu n'as pas la fougue d'une Jetta GLI, d'une Civic, même d'une Civic SI, qui n'était plus une voiture super intéressante dans sa dernière génération. Mais honnêtement, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Et ça me fait m'ennuyer énormément de l'ancienne Elantra GT, à moteur turbo qu'on vendait jusqu'en 2020, voiture qui était en fait une Hyundai i30 vendue sur notre marché. Ça, c'était une voiture dynamiquement très intéressante, beaucoup mieux équilibrée.
Trop peu considérée, malheureusement, par les consommateurs.
Trop peu considérée, mais une voiture franchement intéressante qu'on n'a pas publicisée, qu'on ne poussait pas vraiment.
On voulait vendre des Kona, puis ça paraissait.
Bien, exactement. Alors, cette nouvelle Elantra N-Line risque de connaître un peu de succès, oui, mais ne l'achetez pas dans le pur objectif d'une voiture de haute performance parce qu'il y a un effet de coupe en accélération. Tu sens que la répartition des masses, c'est pas tout à fait ça. Même la sonorité mécanique, ce n'est pas ce qu'il y a de plus inspirant non plus. Il y a une puissance, oui, là, mais c'est rien de... Et moi, je déteste cette boîte séquentielle à double embrayage qu'on a chez Hyundai. Le délai au départ initial est épouvantable. C'est sûr qu'avec un manuel, ça serait drôlement plus intéressant. Bon, là, il faut quand même que j'admette qu'elle était encore chaussée de pneus d'hiver, ce qui rendait pas ce qui lui faisait pas honneur, dans le fond, parce que ces pneus-là étaient peut-être mal adaptés à la voiture et contribuaient à l'instabilité de la bagnole sur la route. Alors ça, c'était pas ce qui avait été plus génial non plus.
De mon côté...
28 000 $ oui. Hein, faut que je dise le prix, c'était 28 000 $ Il n'y a pas d'option à part le choix de couleur à 200$, puis c'est tout.
De mon côté, Sonata N-Line, tu parlais d'effet de coupe, le ressenti avec l'Elantra. Avec la Sonata, je te confirme que l'effet de coupe, il est très, très, très senti.
Mais la puissance est pas mal plus sérieuse.
La puissance est là parce que, bon, il faut peut-être clarifier un peu tout ça. Sonata N-Line, c'est la version la plus puissante de cette berline. On a un 4 cylindres turbo-compressé, 2,5 litres. On est à 290 chevaux. Donc, c'est considérable. Là, tu vas me dire, on en fait toute une histoire, alors qu'une Camry V6 qui a l'air de rien, qui a l'air d'un taxi, d'une voiture de mon oncle en étirant, on est à 301 chevaux. Donc, et on ne la présente pas comme une voiture sportive. Donc,
à part la TRD, là.
Oui, c'est ça. Donc, il y a un jeu, il y a beaucoup de marketing derrière ça. Mais
je peux te confirmer par contre qu'une Sonata N-Line, c'est beaucoup plus rapide en accélération que la Camry V6.
C'est fougueux.
La Camry V6 est handicapée par une transmission qui ne fait pas le travail. C'est pas une sportive. Alors que la Sonata, on a quand même travaillé un peu plus à ce niveau-là.
Oui, et même esthétiquement, tiens, on te donne vraiment une impression de sportive. Mais effectivement, comme tu mentionnais, c'est très rapide, c'est très fougueux. C'est même surprenant à quel point une berline comme ça peut accélérer à ce point rapidement. Peut-être un mot sur sa rivale, sa jumelle, la K5, qui, elle, dans ses versions d'entrée de gamme, propose 4 roues motrices, ce qui n'est pas le cas de la Sonata. Bon,
et... Ce qui n'est pas non plus le cas de la K5 GT.
Oui, la Kia K5, et là, c'est là où ça peut devenir mêlant. Parce que chez Kia, on a la K5 GT Line, qui, elle, a le plus petit moteur de 1.6 turbo, mais quand on fait le saut vers la version GT, qui, elle, est la plus sportive, là, on a le 2.5 turbo. Mais chez Hyundai, la Sonata sportive, son nom, c'est GT Line. Donc, on reprend...
Je vous invite à reculer l'entrevue.
Ben, je le sais, c'est mêlant.
À l'écouter 2-3 fois pour bien comprendre.
Donc, on reprend l'appellation Line chez les deux marques. Et ça veut pas dire la même chose. Et donc, ça peut être assez mêlant.
Mais en aucun cas, on peut avoir le moteur 2.5 de 290 chevaux jumelé à la traction intégrale. Et c'est ça qui est dommage.
C'est ça qui est dommage. Ça aurait été le combo parfait. Malheureusement, on ne l'a pas exécuté ni chez Kia, ni chez Hyundai.
Sauf qu'en même temps, si on avait fait ça...
Oui, on aurait coupé des ventes à la Stinger, je le sais, mais personne...
Qui se vend déjà pas.
Ben c'est ça, personne n'en achète. Fait que rendu là, qu'est-ce que ça peut bien changer? C'est une très bonne question.
Voilà.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation. Antoine Joubert. Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Germain, tout récemment, il y avait lieu l'encan du Barrett Jackson. Et les gens qui ne connaissent pas ce qu'est l'encan Barrett Jackson, c'est évidemment un encan de véhicules de collection, comme il y en a quelques-uns. Il y a des compagnies comme...
Mecom aussi, qui en organise plusieurs chaque année. Donc.
Myers, il y a beaucoup d'encans de ce genre-là. Mais là, on s'est dit, ben ça doit être de moins en moins commun considérant la COVID. Mais aux États-Unis, ça roule et il y a encore des gars qui ont des enveloppes assez bien garnies pour pouvoir se payer des jouets assez particuliers. Et pour nous en parler aujourd'hui, on a décidé de réinviter Benoît Lavigne, qui est un amateur de vieux chars qu'on connaît très bien, toi et moi. Salut Benoît!
Oui, bonjour messieurs.
Bienvenue.
Bonjour Antoine.
Bienvenue parmi nous. Et pour la petite histoire, Benoît a déjà assisté à plusieurs de ces encans-là. Et si je ne me trompe pas même, il a possédé une voiture qui a déjà transigé par un de ces encans-là. Bref, c'est un univers que tu connais bien, Benoît.
Oui, effectivement. Écoute, je suis allé à l'encan Mecom en Floride au mois de janvier. Et puis aussi, je suis allé une couple de fois en Arizona là, pour voir... Les encans, en fait, qui ont lieu au mois de janvier, habituellement, en temps de non-COVID.
Bon, alors, parle-nous donc, Benoît, pour commencer, de ce qu'est Barrett Jackson, parce que, bon, c'est un encan qui a la particularité, d'abord, d'être très, très, très médiatisé, très populaire et télévisé.
Oui, effectivement. Ben, ce qui arrive, les deux familles, Barrett et Jackson, d'où vient le nom, ont créé une compagnie d'encan probablement au début des années 70. Puis c'était un peu un cercle fermé. Là, ils vendaient des Duesenberg, des Bugatti, des voitures de haut de gamme comme ça. Et puis au milieu des années 70, donc 70 a été créé. Au milieu des années 95, il y a M. Craig Jackson, qui est le président actuel. Lui a décidé de faire un spectacle avec tout ça. Là. Il s'est associé avec une nouvelle chaîne de télévision qui débutait à ce moment-là, qui s'appelait Speed Vision,
ouais.
Qui a évolué maintenant à Discovery, là, tout ça. Mais à ce moment-là, il cherchait du contenu là, pour remplir 24 heures sur 24 de contenu automobile. Donc, ils ont fait une association avec Barry Jackson pour retransmettre les encans qui commençaient à prendre de plus en plus d'ampleur en Arizona là, au mois de janvier. Donc, c'est un peu de là que vient le concept là, d'encan spectacle un peu, là, où justement on présente ça à la télé, puis là, ça devient même l'occasion de faire des parties d'encan, quasiment comme il y en a qui font des parties de Super Bowl, les amateurs de football.
Ben, ouais.
Donc, on en est venu à faire des parties d'encan quasiment pour regarder les encans de Barrett Jackson le samedi soir puis le vendredi soir.
Et forcément, on en est venu à vendre autre chose que des Duesenberg, parce qu'il n'y en a pas des millions, là.
Oui, ben c'est ça. Là, il fallait définitivement ajouter à ça parce que dans un encan typique maintenant de Barry Jackson au mois de janvier, il transige à peu près 2500 voitures à Kissimmee avec Mecom. Il se vend à peu près 3000 voitures sur une période de 10 jours. Là. Il y a deux fins de semaine et la semaine au centre.
Ah, c'est du gros volume, là.
Oui, ben évidemment, c'est pas toujours des Chevelle LS6 ou même des Ferrari 250 GTO. Il y a beaucoup de voitures de concessionnaires qu'on appellerait. Là. Dans le fond, des grossistes qui achètent des voitures relativement récentes, des Jaguar, des Porsche, mais aussi là, des special interests, mais plus récents, qui se transigent entre concessionnaires. Donc ça, c'est ce qui occupe un petit peu là, la majorité des ventes qui se font durant la semaine, puis durant les heures de grande écoute. Donc, ce qui est télévisé, le vendredi soir, le samedi soir, tout ça.
On va mettre la crème à l'écran.
C'est ça. Puis, effectivement, ceux qui ont leur voiture à vendre à ce moment-là, habituellement, payent une prime pour avoir un bon spot, là, pour pouvoir justement être télévisé ou être à une heure de grande écoute comme ça.
Bon,
parce qu'il n'y a pas... Allez-y.
Oui, tu parlais d'une prime. Tout coûte cher dans ces encans-là. Il y a des frais pour le vendeur, des frais pour l'acheteur, des frais pour assister. Puis là, tu parlais de frais supplémentaires pour être à un moment qu'on juge intéressant. Ça peut représenter quoi pour soit le commerçant qui vend des véhicules ou le collectionneur qui décide de vendre une de ses voitures?
Ben souvent on regarde les résultats d'encan comme justement là, avec l'encan qu'il y a eu de Barry Jackson la semaine dernière, puis on dit ah telle voiture ça s'est vendu il me semble 50 000 pour tel modèle, il me semble c'est pas cher. Mais là à ça il faut que tu ajoutes deux choses, il faut que tu ajoutes les frais d'encan. Normalement c'est environ 10% de la valeur de la voiture. Donc si une voiture se vend 50, automatiquement, on ajoute un 5 000 $ qui est payable par l'acheteur. Okay? Puis en même temps, l'encanteur, donc dans ce cas-ci, mettons Barry Jackson ou Mecom, va aller chercher un autre 10% de la part du vendeur. Donc, en fait, celui qui vend sa voiture 50 000, même si l'acheteur final paye 55, lui va juste récolter 45. Donc, sur une transaction de 50 000, Barry Jackson va aller chercher presque 20% du montant en prime. Là, en
et on s'entend qu'il y a des véhicules qui se vendent beaucoup plus que 50 000 là-bas. Donc, plus le véhicule est vendu cher, plus c'est payant. Donc, quand on vend, par exemple, une voiture comme une Ferrari 250 GTO à 30 millions de dollars, bien, faites le calcul. Alors, ça n'arrive pas à tous les jours, vous me direz, mais il y a à chaque encan un ou deux highlights de véhicules qui sont vendus quelques millions de dollars. Bien, là,
c'est mieux d'avoir une carte American Express plaquée or, là.
Oui, ouais, ben effectivement, avant d'être capable de lever la main et dire moi je veux bider ça, là, il faut évidemment s'enregistrer comme bidder. Et puis là, il y a différents niveaux de passe. Donc, ta passe que tu affiches dans ton coup, ils peuvent voir ceux qui prennent les bids voient tout de suite à quel niveau de prix tu peux aller. Si tu es préenregistré, mettons, pour 1 000 000 $ ou si tu es préenregistré pour 10 000 $, ils vont pouvoir juger tout de suite si tu as les fonds nécessaires pour pouvoir bider sur ce qui est à l'encan au moment où ça se présente, là, au moment où tu lèverais la main. Donc, c'est ça, il y a tout un système de ça. En même temps, on parle justement de la prime, mais la prime est moins chère pour les amis de Barrett Jackson. On voit souvent les mêmes gens qui reviennent soit pour acheter ou soit pour vendre.
Ouais.
Quand on regarde attentivement la télé, on se rend compte que les premières rangées, les deux, trois premières rangées, habituellement, c'est toujours les mêmes gens qui sont là d'un encan à l'autre. Et puis c'est ça, c'est des clients réguliers. Donc, eux ne payent pas le 10% à l'achat, puis ils ne payent pas non plus 10% à la vente. Ils ont des tarifs préférentiels, mettons.
Sauf qu'ils marchent au volume. Ils vendent et ils achètent tellement de véhicules que bon.
Et ils créent un spectacle.
Oui, effectivement. L'idée, c'est de créer un spectacle. Ce que M. Jackson voulait faire, c'était de faire ce qu'il appelle un lifestyle event. Là, vraiment quelque chose où il y a comme une espèce de foire commerciale en même temps. Là, il s'est associé avec les différents manufacturiers aussi, avec Chevrolet, Dodge, entre autres, et même Ford, pour qu'eux aient des displays qui montrent les voitures neuves. En même temps, il y a toutes sortes de choses. Tu peux acheter un hot tub, tu peux acheter un paquet de trucs.
Mais ça vient, en ce qui me concerne, un peu teinter le cachet même de ce genre d'encan-là, à mon avis, parce que c'est de plus en plus commun de voir, par exemple, la première Corvette qui s'est vendue pour, je ne me souviens pas.
Très récemment, on a vu le premier Hummer EV, on a vu le premier Bronco 2021.
Pis c'est toujours les mêmes qui vont acheter ces véhicules-là. Bon,
un véhicule qui a une valeur de 100 000 $, grosso modo, quand il arrive sur le marché, ben exemple, le Hummer, ça s'est vendu 2,5 millions américains. C'est inexplicable ou presque.
Puis c'est Roger Penske qui va acheter un char sur deux dans ce temps-là, puis qui va faire une déduction fiscale dans sa compagnie. Tu sais, c'est bon.
C'est ça. C'est M. Hendricks qui achète l'autre ensuite.
Ah, c'est ça. C'est ça, exactement.
C'est tout le temps ces deux-là à peu près qui achètent ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, ici, bon, on a certains avantages fiscaux à faire des dons de charité. Mais tu sais, c'est des pourcentages d'un pourcentage là, qui est calculé. Tandis qu'aux États-Unis, le IRS... Le service d'impôt fédéral est un peu plus généreux au niveau des dons de charité, au niveau des déductions fiscales. Donc, si on comprend que notre Hummer à 100 000, qui s'est vendu à 2 500 000, ben il y a une cause qui est attachée à ça, probablement habituellement avec Barry Jackson, c'est souvent la dystrophie musculaire entre des maladies infantiles. Donc, le 2,4 millions de différence qui est payé par-dessus le PDSF, c'est considéré comme un don de charité. Donc, pour une corporation, ça devient intéressant d'avoir la déduction fiscale qui va avec ça. Donc, oui, effectivement, l'argent est versé à une cause, mais c'est ça, le véhicule comme tel, il ne pourrait pas le revendre le lendemain matin à 2,5 millions. Probablement qu'il le revendrait un petit peu plus cher pour avoir le privilège d'avoir le VIN numéro 1, mais certainement pas le même prix qui a été payé à l'encan. Puis ça, c'est en faisant le calcul justement de la déduction fiscale.
Il y a des modèles, Benoît, qui sont des incontournables, des encans qui valent toujours cher. Bon, un CUDA 426 on sait que ça va se vendre à des prix de fou. Il y a des modèles, c'est des incontournables. N'importe quelle Ferrari qui va passer là, on n'a pas de surprise. Ça continue de grimper en valeur. Là, je te parle pas d'une Ferrari récente. Mais là, on constate qu'il y a des véhicules un peu hors champ, un peu hors norme, ou disons pour lesquels il y a un engouement qui est nouveau. Des véhicules qui passent à l'encan comme ça et que là, ils se vendent à des prix de fou. Puis je pense peut-être à certaines sportives japonaises des années 90 qu'on n'aurait jamais pu imaginer voir dans ces encans-là. Il y a eu un Amphicar tout récemment qui est passé là. Parle-moi donc de ça, de ces nouveaux véhicules-là qu'on voit se vendre à des prix de fou.
Oui, ben une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand, en même temps qu'il y a, que je dis, il y a comme une foire commerciale, puis tout ça, l'ambiance de l'encan, tout ça, eux, ils cultivent cette culture-là, cette façon-là pour ceux qui sont là comme acheteurs, ils sont tous bien traités, ils ont des loges, ils ont le bar open habituellement, on a il y a une espèce de carte de bidder, donc tu peux aller au bar.
Toujours plus facile de bider quand t'es sous, d'ailleurs.
C'est ça. L'inhibition, c'est bon aussi pour l'achat.
Ouais, c'est ça.
On appelle du drunk bidding. Puis en même temps, il y a des gens aussi qui aiment ça passer à la télé, qui aiment ça qu'ils soient vus comme en train de bider sur une voiture d'un million ou quelque chose comme ça. C'est leur 15 secondes de gloire. Donc ça peut entraîner quelque chose. Puis souvent aussi dans ce monde-là, qui est pas le nôtre malheureusement, là, des gens qui ont beaucoup de moyens comme ça pour acheter des jouets.
C'est des égos.
Ils ont des gros égos, puis ils vont là en chum. Donc un va relancer un autre, il va voyons donc, c'est juste 50 000 de plus, vas-y, bête par-dessus tout ça. Fait que ça crée des fois des prix artificiels.
C'est comme si Antoine et moi, on s'obstinait pour 50 $.
Ben c'est ça, c'est comme si maintenant vous alliez voir la même GTI 84, puis à un moment donné, un disait « Ah, écoute, il demande 2500, mais donne 2600, ça sera pas si pire, là, tu vas le retrouver plus tard, tout ça. » Eux autres, c'est à coup de 100 000 plutôt que à coup de 1000, là, à coup de 100 000.
Un autre univers.
Sauf que des GTI 84, on est souvent rendu à du 20, 22, 24, 26 000, c'est ça l'affaire, c'est que je t'amène un peu là parce qu'il y a des voitures qui se vendaient à des prix ridicules il y a quelques années et qui, là, pour lesquelles il y a un engouement fou, là.
Bien, évidemment, il y a toujours une évolution, hein. Les boomers qui achetaient des Chevrolet 57 décapotables il y a quelques années, bien, maintenant, ils se départissent plutôt de leur collection. Donc, ça fait que le marché est un peu inondé.
Ouais.
Ça reste quand même des valeurs sûres. Mais il y a de la nouvelle richesse. Qui rentre maintenant en ligne de compte. Donc, des gens dans la trentaine, ou dans la quarantaine, cinquantaine, qui veulent... On veut toujours acheter des voitures, dans le fond, qu'on convoitait quand on était plus jeune, mais qu'on n'avait pas les moyens d'acheter.
Ben oui.
Donc, des voitures comme des Supra Turbo, comme des Integra Type R, des trucs comme ça. Les exemplaires qui sont en bon état commencent... Il y a un très gros intérêt pour ces voitures-là. Des gens justement qui veulent les acheter, qui veulent avoir les voitures qu'ils n'ont pas pu acheter à ce moment-là. Donc, c'est sûr qu'on voit un engouement pour les voitures des années 80-90 de plus en plus dans les encans. Parce que justement, les gens qui ont les moyens d'acheter ça commencent à avoir de l'argent disponible pour ça, pour s'acheter des jouets maintenant que là, je sais pas, la famille est faite ou l'entreprise fonctionne bien. Donc ça, c'est vraiment des véhicules à surveiller dans les années qui s'en viennent, là.
Et
c'est pas juste une mode justement de deux gauchos qui ont bidé un contre l'autre.
Ouais, c'est un phénomène générationnel là, ouais.
Puis il y a la relance des nouveaux modèles aussi. Tu sais, je pense au Bronco, je pense au Grand Wagoneer, ces deux véhicules qui reviennent sur le marché. Bien là, soudainement, ça fait en sorte que les modèles d'antan, eux, gagnent en valeur aussi. Là.
Oui, parce que ça redonne le spotlight à ces anciens modèles-là, puis ça rend les gens nostalgiques. C'était le cas avec le Supra aussi. Quand on a vu la nouvelle, on s'est dit « Ah, l'ancienne était très cool ».
Oui, c'est ça.
Mais sinon, peut-être sur un autre volet, Benoît, est-ce qu'il y a des achats intéressants? Est-ce qu'il y a, on peut-être pas dire aubaine, mais est-ce qu'il y a encore des bonnes affaires, disons ça comme ça, à réaliser? Parce que, entendons-nous, les listes de voitures à vendre sont publiées d'avance, c'est diffusé à la télé, de partout dans le monde, tu peux miser en ligne, t'as pas besoin d'être sur place, on s'entend que le bassin d'acheteurs pourrait difficilement être plus grand. Donc, est-ce qu'il y a encore, justement, des bonnes affaires à faire?
Oui, ben écoute, c'est sûr que, comme tu dis, la liste est publiée et tout ça, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui est disponible pour aller voir une voiture un mercredi matin à 9h quand elle n'est pas passée à l'encan ou tout ça, à part les dealers. Donc, si tu es sur place, moi je dirais, si quelqu'un veut acheter une voiture, il y a des aubaines à y avoir, mais pas dans les heures de grande diffusion. Tu parlais tantôt d'une voiture que j'ai possédée et qui a passé par Barry Jackson en Arizona. C'est un copain à moi qui l'avait acheté là-bas en Arizona, qui l'a ramené. Ben, elle s'était vendue justement là, un mercredi avant midi à 10h. C'était une très belle voiture, là, une Satellite 69 qui venait du sud des États-Unis, pas de rouille, une belle finition, tout ça. Puis elle s'était vendue vraiment assez le prix était quand même assez bas pour que ça vaille la peine de payer le transport, le 2000$ que ça coûte pour la ramener jusqu'au Québec, plus l'échange qui était encore là à 30% à ce moment-là. Encore.
Puis les taxes de douane, etc.
Oui, effectivement. Même c'est drôle parce que ce qui est amusant, il y a une taxe fédérale, une taxe d'assises fédérale de 100$ qui s'applique sur toutes les voitures avec l'air climatique qui sont vendues au Canada. Puis même si la voiture est une 69, vu qu'elle était équipée d'origine de la climatisation, j'avais eu à payer 100$ de taxe d'assises.
Je trouve pas, tu vois, tu utilisais le mot drôle. Moi, je trouve pas ça drôle. Ça m'est arrivé aussi d'aller acheter une voiture aux États-Unis, justement, une Lincoln 75. On est arrivé aux douanes, puis on nous a chargé 100$ de taxe d'assises.
Avec la climatisation qui était probablement non fonctionnelle en plus.
Je te le confirme. Alors, tu sais, c'est ridicule.
Ah, mais si on voit un 100$ dépensé de ta poche arrière, Antoine, le gouvernement va venir chercher ce doux billet brun.
Ah, mais même s'ils ne dépassent pas, ils vont venir le chercher.
Oui, bien, habituellement, le gouvernement veut notre bien et habituellement l'obtient.
Oui, c'est ça. Il y a un phénomène que j'ai observé dans les derniers encans, Benoît. La hausse de valeur des voitures de type resto-mode. Il y a quelques exemples qui me viennent en tête. Des Corvettes, par exemple, des Impala, des véhicules des années 50 et 60, et qui vont être transformés. On va garder le châssis original, la carrosserie originale, mais on va mettre une mécanique moderne, des suspensions modernes, des freins modernes. On va moderniser l'intérieur aussi. Et ben, pour mon œil de puriste, de voir ces voitures-là être transformé, ben ça me fait un peu mal, mais en même temps, ces véhicules-là vont être plus performants, et plus fiables, c'est bien fait. Comment justifier que ça se vend si cher, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers de dollars?
Ben, Barry Jackson s'est fait une spécialité dans les deux, trois dernières années là, à vendre beaucoup, beaucoup de Corvettes de ce genre-là, puis d'autres véhicules, comme tu mentionnes, des Impala et autres, là, avec une mécanique moderne. Souvent, même le châssis au complet est changé là, pour un châssis Art Morrison. Donc, il y a vraiment juste la carrosserie, l'apparence. En fait, les gens qui achetaient ces voitures-là il y a quelques années, ben étaient en amour un petit peu avec le look. Par contre, c'est pas nécessairement une voiture. Une Corvette C2 avec un essieu arrière rigide, c'est pas particulièrement confortable ni performant. Alors, c'est sûr que si tu peux avoir le look d'antan, puis avec un intérieur moderne, puis une mécanique qui est beaucoup plus fiable, ben c'est un peu ce que recherchent souvent les acheteurs, plus que nécessairement d'avoir la mécanique avec les numéros qui matchent le châssis, puis tout ça, là, comme beaucoup de puristes. Mais souvent aussi, c'est que les gens ont les deux. Les gens qui ont les moyens d'acheter des restos mode à 150-200 000 $ US, ben souvent, ils en ont déjà une stock, puis ils veulent en avoir une autre qu'ils peuvent conduire, puis avoir un peu de plaisir à utiliser.
Mais on s'entend que du resto mode, on va voir ça surtout dans de la voiture américaine ancienne. Oui. Je connais pas beaucoup de gens... Bon, ben c'est clair parce que les pièces sont faciles. Ouais. Bon, mais
c'est ça. T'as des kits, tout ça, qui sont disponibles pour le faire quasiment toi-même dans ton garage.
Mais moi, je serais surpris de voir, par exemple, une Civic 82 avec une mécanique de Civic Tipper de l'année. Tu sais,
ça serait particulier.
Ça serait un resto mode, mais tu sais, dans un autre contexte.
Oui, effectivement, mais écoute, ça se fait quand même des updates là où ils vont mettre des moteurs d'Integra plus récents dans une Civic ou des choses comme ça. Là, je suis un peu moins au fait dans mes voitures japonaises.
Il va falloir que tu te recycles, Benoît. Il va falloir que tu te recycles. Mais écoute, moi ce que je veux savoir, là, tu as déjà participé à des encans comme ça. Tu sais à quel point il y a une frénésie quand on est sur place. Bon, normalement, évidemment. Mais évidemment, ce qu'on voit à la télé, ce n'est qu'une parcelle de l'événement qui a lieu là-bas. Moi, ce que je veux savoir, c'est à quel point c'est rapide la vente d'un véhicule.
À quel point tu n'as pas le temps d'y penser, là?
C'est ça, parce que quand tu vois passer une voiture sur la ligne à l'encan en live, écoute, ça prend 3-4 minutes, la voiture n'est plus là, là. Fait que, est-ce que
c'est... Cligne pas des yeux, c'est fini, tu n'as pas le temps de lever la main, là.
C'est ça.
Puis le pire, c'est que tu peux pas faire de road test. Tu peux pas. Si tu es intéressé à une voiture, tu peux la regarder. Si tu es chanceux, tu peux rentrer en contact avec le propriétaire parce qu'il a mis son numéro de téléphone, puis tu peux l'appeler parce qu'il ne tient pas toujours à côté de la voiture quand tu es comme en exposition dans les tentes à l'extérieur.
Dans les jours précédents, l'encan, c'est ça?
C'est ça, parce qu'habituellement, l'encan va durer une dizaine de journées dans les gros encans, celui qui subit, puis en Arizona. Mais souvent, c'est ça, la voiture va être là en dessous d'une tente à l'extérieur en attendant de passer sur le stage. Fait que tu peux la regarder, mais habituellement, tu peux pas faire d'inspection vraiment, tu peux pas. Fait que c'est vraiment un gamble que tu fais. Puis souvent, c'est ça, tu te rends compte qu'il y a plusieurs voitures qui sont, mettons, ils sont finis rapidement pour pouvoir participer à l'extérieur, pour pouvoir la vendre à l'encan.
C'est ça, c'est...
nécessairement des restaurations sans point tout le temps, là.
Il y en a que c'est très ordinaire, tu sais.
Oui, c'est très, très... Il faut être très, très, très prudent. Moi, je peux pas comprendre les gens qui bident par téléphone à un encan comme ça sans avoir vu la voiture ou au moins avoir envoyé quelqu'un la voir pour eux. Là. Donc ça, c'est très dangereux. Puis il y a beaucoup, beaucoup de voitures qui sont maquillées exprès pour l'encan. Même si Barrett Jackson et Vincom se font quand même un point d'honneur de supposément vérifier et certifier des voitures, il y a quand même des fois des trucs de numéro de série ou de... Qui ressurgissent après l'encan. Mais effectivement, ça va très, très, très vite. T'as pas le temps. Faut vraiment que si tu veux acheter une voiture à l'encan, il faut que tu mettes tout de suite une limite dans ta tête. Puis peu importe ce qui arrive, tu peux pas dépasser. Parce que sur le coup, tu vas te dire, c'est juste 1000 de plus, c'est juste 2000 de plus, c'est juste. Mais ça va tellement vite qu'à un moment donné, tu te retrouves que si tu fais pas attention puis si t'as pas mis ta limite, tu vas te retrouver à payer 2-3 000 de plus. Puis là, ben, le plus le frais d'encan, plus les taxes, plus tout ça, ben là, tu te retrouves qu'une voiture qui va coûter beaucoup plus cher que le prix du marché. T'sais.
Voilà.
Puis comme je disais, ben c'est sûr que si tu l'achètes en Arizona ou en Floride, ben il faut que tu rajoutes un autre 2000 pour la ramener à la maison, la voiture.
Et pour nous, les Canadiens, ben il y a le taux de change qui nous scie les jambes, oui. Complètement.
En fait, si tu regardes un résultat d'encan, mettons qu'on parlait de notre voiture à 50 000 tantôt, là,
oui.
Ben calcule si tu veux l'avoir dans ton entrée chez toi à partir du prix d'encan, là, mais minimum 50 % de plus. Ça veut dire que la voiture à 50 000 va coûter minimum 75 000 $ canadiens pour l'avoir chez toi.
Bah, c'est considérable. Et avec les sites comme Bring a Trailer ou Cars and Bids de Doug DeMuro, quel avenir attend les encans en direct et en présentiel, pour utiliser un terme à la mode? Quel avenir attend ce type d'encans-là physiquement sur place?
Ben, comme je disais tantôt, c'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que Bring a Trailer, tout ça, ont amené une façon de faire où tu as des centaines de photos, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de détails, tout ça, mais c'est pas la même chose que de voir la voiture en personne, de pouvoir y toucher, de pouvoir l'entendre si t'es chanceux.
Puis on se spécialise pas nécessairement dans les mêmes véhicules non plus, je trouve.
Non, effectivement. Bring a Trailer est peut-être un peu moins. Tu verras pas tu vas en voir de temps en temps, mais c'est l'exception là, de voir des exotiques à 1 million, là.
Puis des muscle cars américains, c'est pas, je veux dire, Bring a Trailer, c'est pas la place pour vendre une Mac One, par exemple. Tu sais, on est beaucoup dans la voiture importée.
C'est une niche différente.
C'est pour ça que Mecom et Barrett Jackson misent vraiment là, de faire un événement avec ça. Puis c'est ce qui fait qu'il y a des gens comme moi qui vont se déplacer jusqu'en Arizona pour aller voir un encan. C'était même pas pour acheter la voiture ou même pas tout ça. C'était vraiment pour pouvoir participer à ça, aller voir les voitures. Puis être vraiment dans l'ambiance de tout ça. Puis c'est sûr que quand tu vas en Arizona au mois de janvier, ben il y a à peu près une dizaine d'encans différents. Dans une période de 2 semaines, tu as à peu près une dizaine d'encans différents là, qui vont se produire. Tu as RM, tu as Silver, tu as plusieurs comme ça.
Et tout ça, c'est ouvert au public, Benoît?
Oui, tu peux circuler parmi les voitures. Tu n'as pas besoin d'avoir une passe là, d'acheteur ou quoi que ce soit. Habituellement, les tentes ou tout ça à l'extérieur, où sont les voitures qui vont être mises à l'encan, c'est accessible. Donc, tu peux y aller pour le spectacle. C'est comme un car show, dans le fond, accessible avec des milliers de voitures là, que tu peux aller regarder.
Avec des voitures différentes de celles présentes de manière hebdomadaire à Laval Autosport.
Oui. Effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Puis en même temps, ben justement, le fait que ce soit au mois de janvier en Floride ou en Arizona, ben, ça donne un bon break.
Ça coupe l'hiver.
À l'époque où on pouvait voyager, c'est ça.
Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été avec nous. Puis peut-être qu'on peut espérer, en janvier prochain, effectuer le voyage pour aller voir ça, sachant en plus que le Salon de l'Auto de Détroit ne se passe plus en janvier.
Oui, définitivement. C'est une belle façon de couper l'hiver, comme disait Germain.
Merci, monsieur. Benoît.
À bientôt.
C'est bon. Bonne journée, monsieur. Bye.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, je te lis quelques questions qu'on a reçues de nos auditeurs. On a Charles ici qui possède une Honda Fit LX 2016 à boîte manuelle. Il ne l'aime vraiment pas. Il a eu de sérieux problèmes avec la batterie et il a trouvé que le service après-vente était horrible. C'est sa première Honda et il assure que ce sera sa dernière. Il magasine pour une voiture d'occasion avec plus de cœur aux ventes et pour laquelle la fiabilité sera au rendez-vous. Elle doit obligatoirement aussi être dotée d'une boîte manuelle. C'est bien important. Est-ce qu'une Nissan Sentra SR à moteur turbo-compressé sera une bonne idée? Il est possible, selon lui, d'en dénicher un exemplaire qui a parcouru environ 40 000 km pour une somme d'environ 16 à 18 000 $.
Intéressant comme question. D'abord, les problèmes de batterie sur la Honda Fit, c'est un problème connu et c'est un problème encore plus connu si la voiture ne fait que tourner en rond. Parce que c'est littéralement une batterie de brosse à dents qu'on a là-dedans. Là. C'est minuscule. C'est trop petit pour n'importe quelle voiture sur le marché. C'est à peine plus gros qu'une batterie de moto, là.
Ah oui,
c'est vraiment, on ne l'a pas.
Est-ce qu'on peut la remplacer par une batterie
L'idée, c'est peut-être d'aller chercher une batterie AGM, mais la taille ne sera pas plus grosse parce que malheureusement, c'est difficile de grossir la batterie de la voiture considérant comment c'est fait. Alors ça, c'est un vice de conception. Mais sinon, ce n'est pas une voiture qui est mal faite. C'est une voiture qui est très mal insonorisée, mais c'est quand même une voiture généralement très fiable. Maintenant, si vous avez eu des problèmes avec votre concessionnaire ça, c'est du cas par cas, évidemment, et là, vous voulez changer pour une autre voiture. La Sentra SR, faut mentionner qu'on parle de l'ancienne génération de cette Sentra-là qui, oui, a été offerte en version turbo-compressée. Ça avait quand même du cœur au ventre. C'était la mécanique du Nissan Juke qu'on avait là-dedans. Alors, assez nerveux. Relativement intéressant à conduire, mais je peux pas vous dire que c'est la voiture la mieux équilibrée. Il y a de l'effet de coupe en accélération. La position de conduite, elle est curieuse. C'est une voiture méconnue, mais qui se vend pas cher parce qu'elle est méconnue. Alors, si vous comparez avec...
C'est beaucoup moins convoité qu'une GLI.
C'est
là.
Pas convoité. C'est pas convoité. Mais une GLI est une voiture beaucoup plus équilibrée, plus intéressante à conduire pour moi. Parce que la position de conduite de ce Sentra-là, moi, ça m'a toujours un peu agacé. La répartition aussi, l'équilibre de l'auto, c'est pas tout à fait ça. Il y a quand même des barres stabilisatrices qui font en sorte que la tenue de route est vraiment pas vilaine. C'est une voiture surprenante. Moi, pour l'avoir conduite même sur le circuit à Mont-Tremblant, c'est une voiture qui peut être surprenante au niveau de sa précision, de sa trajectoire, mais la répartition des masses, c'est pas parfait. Mais t'achètes pas généralement une Sentra pour son côté sportif. Et ça, c'est une carte cachée, disons.
Ouais.
Et vous la paierez pas cher parce que personne connaît ça. Alors, c'est en ce sens-là que ça peut être une bonne voiture. Et côté fiabilité, soyez sans crainte, il n'y a pas de problème. Le gros problème de fiabilité de la Sentra, on le sait, ça a toujours été la CVT. Et là, si vous optez pour une Sentra à boîte manuelle avec la CVT, vous risquez d'avoir un peu plus de problèmes. Mais si vous optez pour la manuelle, à ce moment-là, vous réglez le problème.
J'en avais fait l'essai, justement, de la Sentra SR à moteur turbo. Et j'avais été surpris et peut-être un peu déçu par le fait que la boîte manuelle, En passant les rapports, la voiture avait un peu moins de 10 000 km, ça grichait. Donc, je ne sais pas si elle avait été vraiment malmenée dans les essais précédents.
C'est peut-être la même que moi, j'avais conduite. Et je peux te dire que tous les pilotes de la série Micro Cup avaient conduit cette voiture-là sur le circuit à Tremblant. Donc, est-ce qu'elle a été savatée, comme on dit en bon français? Peut-être.
Peut-être. Bon, une question rapide de Jacques ici. Il se demande s'il doit se méfier de la fiabilité d'un Acura RDX 2021.
Réponse rapide, non.
Bon, voilà, c'est assez clair. Peut-être en élaborant, le RDX a fait ses preuves. C'est un produit...
Non, c'est d'abord, le moteur turbo qu'il y a là-dedans, on l'a dans l'accord depuis plusieurs années. Ouais. C'est un moteur qui est efficace. On a eu des problèmes avec le 1.5 turbo, mais pas avec le 2 litres. Puis de façon générale, le RDX, c'est une bonne machine. Sur l'ancienne génération, on a eu des vis de conception au niveau de la suspension arrière qui semblent être réglées pour ce modèle-là.
Bon, intéressant. Et pour terminer, on a Lisette qui aimerait s'acheter une Fiat 124 Spyder 2017. La voiture a environ 10 000 km au compteur. Est-ce que c'est un bon achat et combien on doit payer à peu près pour ça?
Ben, écoutez, c'est une Miata, hein? c'est une Mazda MX-5, mais avec un moteur Fiat, moteur qui n'est pas un modèle de fiabilité, sauf qu'on comprend en même temps que c'est une voiture saisonnière. C'est pas une voiture qui va être utilisée au quotidien, j'imagine, ou du moins durant l'été. Est-ce que cette mécanique-là me ferait peur pour du long terme? Pas nécessairement. Parce que ce qu'on reproche souvent à Fiat, c'est beaucoup des problèmes électroniques, des problèmes de rendement, de conception à la base. Alors que cette voiture-là est quand même très bien conçue et que la majorité des composantes proviennent de chez Mazda, même la transmission manuelle qu'on retrouve là-dedans, c'est la boîte de l'ancienne génération de la MX-5. Alors, c'est pas vilain comme voiture. Je choisirais personnellement une MX-5 avant, sauf que cette Fiat-là est intéressante.
Ça vaut moins cher, voilà.
Bien, c'est ça. Ça vaut moins cher. C'est quoi le prix raisonnable à payer pour une Fiat 2017 de 10 000 km? À peine plus de 20 000 $
Ouais.
Alors que c'est une voiture qui se vendait peut-être à l'origine entre 35 et 40 000. Alors, vous auriez une voiture vraiment intéressante pour pas cher et qui va être quand même assez solide très longtemps.
Et c'est très plaisant à conduire.
Oui, c'est très plaisant à conduire. Un peu plus lourd que la MX-5. Ouais. Bon, la ligne est plus lourde, la voiture est un peu plus longue, mais...
On va rechercher quand même du plaisir avec le moteur turbo quand on monte en tour. Là, c'est loin d'être désagréable.
Absolument. Il faut la rouler au super. Hein, ça, c'est important.
Bon, excellent. On note ça pour l'essence. Antoine, merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine.
Voilà. Bon week-end.
Cube Radio.